Le débat africain. Alain Foucault.
Exécutions arbitraires, disparitions forcées, arrestations et détentions, tortures, enlèvements, esclavage, recrutement d'enfants soldats, mutilations, violences sexuelles, déplacements forcés ou encore destruction de propriétés. Depuis l'indépendance du Mali, et un peu plus ces deux dernières décennies, le pays a été le théâtre de nombreuses violations, de nombreuses exactions, de nombreuses souffrances infligées à des personnes. Autant de choses qui ont souvent créé chez les victimes le risque de répétition de ces exactions, ou la généralisation des violences, ou des velléités de vengeance. C'est pour éviter cette escalade qu'a été créée une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Un cadre destiné à solder toutes ces douleurs et peines et rendre justice afin que l'impunité ne soit pas la règle. Dans un pays en proie aux divisions et sous la pression de groupes terroristes qui torturent, violentent des populations depuis sa création en janvier 2014, quel bilan pour la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a pour vocation de contribuer à l'instauration et à la consolidation de l'unité nationale et des valeurs démocratiques? A-t-elle réussi à rapprocher les victimes et leurs bourreaux? Est-elle parvenue à rendre justice? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Bamako au Mali avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Ousmane Oumarou Sidibé, président du CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Bonjour M. Sidibé.
Bonjour M. Foucault.
Notre seconde invitée est Mme Fatoumata Touré, présidente du Conseil national des victimes. Bonjour Madame Fatoumata
bonjour,
Touré.
Bonjour.
Merci d'être là. Troisième invité de ce plateau, Monsieur Saloum Traoré, victime et membre du CNAV, la Coordination nationale des associations des victimes. Alors, j'ai envie que nous parlions de façon très très concrète. On sait dans quel cadre cette commission a été créée, lorsqu'on faisait cette commission pour la paix, pour les accords de paix. Est-ce que ça se justifiait à ce moment-là, Abderrahmane?
Bon, à ce moment, pour dire vrai, je pense que c'est vraiment une... Moi, personnellement, les motivations de la création de cette commission me laissent perplexe. Je pense qu'en réalité, c'est une commission qui a été beaucoup plus créée pour alourdir l'application et la mise en œuvre de l'accord.
Si j'en juge... Les accords d'Alger?
L'accord d'Alger, effectivement.
Si, puisque les accords de paix d'Alger.
C'est quand même une demande de l'autre partie, de la partie différente du gouvernement. C'est de l'autre, des autres protagonistes.
Mmh. C'est-à-dire ceux du Nord.
Ceux du Nord, effectivement.
Les mouvements de rébellion
dans le Nord. Les mouvements armés. Mmh. Je pense qu'ils avaient pour... ils visaient à l'époque l'exhumation d'épisodes historiques tels que les années 63. L'année 63, où il y a eu une répression de la rébellion à l'époque. Mmh. Mais je juge que c'est quand même une opportunité pour tous ceux qui ont été des victimes de cette histoire de s'engouffrer.
Était-il besoin de remonter jusqu'à cette date-là? Est-ce qu'il y avait besoin de repartir depuis les années 60?
Je pense que la question s'était posée à l'époque. Ça a été même l'objet d'un tiraillement entre beaucoup d'acteurs concernés, des protagonistes concernés par cette affaire. Et je pense que l'autre l'a finalement emporté de réveiller l'ensemble des épisodes. Et pour moi, personnellement, je pense que le pacte national des années 90 aurait pu suffire. Il y a eu aussi la conférence nationale où il y avait une commission de crimes de sang, où les gens, tout le monde a eu l'occasion de dire ce qu'il pense par rapport aux épisodes passés dont je viens de parler actuellement. Mais vraiment, comme je l'ai dit, je reviens là-dessus. Les motivations de la création de cette commission, surtout de son extension à des temps immémoriaux, me paraissent un peu perplexes.
Alors, mais lorsqu'on regarde, il y a quand même eu pas mal d'exactions, pas mal de violences, on vient d'en parler, dans le pays. Là, sur ce plateau, on a des victimes. On a des victimes. Là, je vais me tourner vers vous, Madame Fatoumatou. Pour vous, quand vous dites des victimes, quelles sont ces victimes et dans quelles circonstances? Parce qu'il faut qu'on mette des visages, qu'on mette des noms à ces personnes qui sont victimes de toutes ces exactions qu'il y a eu sur ce territoire.
Quand on dit victimes, on dit déplacés, on dit victimes de flagellation.
Ça, c'est plus récent, ça, non?
Les flagellations, depuis 2012, il y en a. Mmh. Il y en a eu.
Avec l'arrivée de ceux qu'on a appelés les djihadistes.
Les djihadistes, oui. Mmh. Et les victimes amputées presque toutes sortes de victimes.
Oui, qu'il pratiquait la justice, la charia, quoi.
La charia sur ces victimes en les amputant.
Alors, donc, vous avez un certain nombre de personnes comme ça que vous avez réunies au sein de votre association.
Oui, on en a. Au sein des deux structures, d'ailleurs, au sein des deux structures, nous avons des gens comme ça.
Monsieur Traoré, dans votre association aussi, la CNAV, vous avez des victimes du même ordre ou bien c'est des victimes d'un autre modèle ?
Effectivement, nous avons des victimes du même ordre, mais aussi nous avons d'autres victimes. Par exemple, chez nous, le noyau même de notre association, c'est parti du fait justement du problème des bérets rouges. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient été portés disparus à un certain moment, et finalement, on a découvert qu'ils étaient effectivement. Ils avaient été arrêtés et puis ils ont été liquidés, ils ont été enterrés quelque part.
Par qui ?
Par justement la junte militaire qui avait fait le coup d'État de 2012. Donc je pense que un mois après, c'est-à-dire en avril.
La junte qui avait renversé le président Mamadou Toumani Touré.
Exactement. Un mois après, il y avait eu quelques militaires qui étaient encore restés, disons, fidèles à Mamadou Toumani Touré, qui ont essayé de renverser la chose. Et puis il y a eu la nuit du 30 avril. Et cette nuit-là, effectivement, les militaires bérets rouges et les bérets verts se sont vraiment affrontés. Et après ça, il y a eu des gens qui ont été... beaucoup d'arrestations. Et finalement, on s'est retrouvés avec des gens qui, bon, de notre point de vue, étaient vraiment innocents, puisqu'ils ont été arrêtés soit à la maison ou comme ça. Et ils n'étaient pas sur le terrain de bataille, etc. Et même ceux qui étaient sur le terrain de bataille... dans les temps modernes, on ne prend pas quelqu'un et l'exécuter comme ça.
Il faut quand même un jugement.
Voilà, il faut un jugement, il faut un tribunal. Cela n'a pas eu lieu. Ils ont été purement et simplement exécutés. D'abord portés disparus. Et des organisations de défense des droits humains qui étaient sur le terrain, Amnesty et autres, ils ont mené des enquêtes, ils ont demandé des enquêtes. Et finalement, les enquêtes ont prouvé qu'effectivement, les gens, ils étaient enterrés tout à côté de Bamako ici. Dans un trou, dans une fosse commune.
On sait qui a été responsable.
Oui,
on sait.
Non, on sait très bien. C'était la junte du moment, avec comme responsable le président de la junte qui était là, Amadou Aya. Et d'ailleurs, il a été interpellé pour ça après. Et effectivement, il y a eu beaucoup de tentatives d'ailleurs de procès qui n'ont pas abouti.
Jusqu'à maintenant.
Et je pense que jusqu'à présent, on continue le procès. Disons, il y a même l'autre jour, on parlait que très prochainement, on va revenir sur le procès pour qu'il puisse avoir justice, quoi.
Voilà. Pour qu'il puisse y avoir. Mais c'est quand même étonnant parce que c'est tout récent.
Voilà. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'autres victimes. Les attentats qui se passent dans nos villages, par-ci, par-là, et qui continuent d'ailleurs jusqu'à présent. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles victimes.
Monsieur le Président, vous avez été désigné pour, on va dire, faire la vérité autour de tous ces assassinats, toutes ces violences, mais rendre aussi la justice pour que les gens puissent se réconcilier. J'ai envie de dire... Est-ce que vous avez les moyens de le faire déjà ?
Ben oui, d'abord je voudrais dire que effectivement notre commission a un mandat temporel très large de 1960 à nos jours, mais il faut comprendre quand même que le Mali a traversé des épisodes violents qui n'ont jamais été soldés. On a eu trois coups d'État, quasiment quatre maintenant, des tentatives de coups d'État, d'autres types de crises qui toutes se sont accompagnées par des graves violations des droits de l'homme. C'est vrai que dans le cadre de l'accord de paix, les mouvements armés ont beaucoup insisté pour remonter en 1960, parce que 1963, c'était la première rébellion. Et la première rébellion, les rébellions qui ont suivi sont pratiquement en filiation avec la première rébellion. Les acteurs des rébellions récentes sont les enfants, pour certains d'entre eux, des rebelles de 1963.
Qui avait été sérieusement maté.
Bon, donc
il
était important que on ait un regard sur tout ça, que le Mali puisse solder et toutes ces violations qui ont eu lieu. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Oui, parce que notre mandat temporaire matériel même est très large, mais vraiment le cœur de notre mandat c'est deux choses: enquêter sur les graves violations des droits de l'homme de 1960 à aujourd'hui.
Et ça fait quand même une période tellement large qu'on s'est dit, mais comment vous pouvez vous en sortir, puisque la crise actuelle, certes, prend racine dans ces années-là,
tout à fait.
Mais peut-être qu'il faut d'abord solder les crises d'aujourd'hui.
Non, parce que les acteurs, comme je le dis encore, souvent les acteurs des crises actuelles ont une filiation avec la crise de 1963. Donc, pour eux, quasiment si ça ne s'est pas soldé, c'est difficile de parvenir à la paix. Et il y a d'autres types de crises. Il y a eu des crises politiques. Il y a eu le problème qu'on appelle PSP-RDA en 1963. Il y a eu les révoltes paysannes de Wolesebougou. Il y a eu les révoltes de Sakoiba à côté de Ségou. Il y a plusieurs. Il y a eu les révoltes étudiantes qui ont été matées dans le sang. Il y a beaucoup de types de révoltes.
Mais en même temps, lorsqu'on regarde, est-ce qu'en essayant de tout englober, on n'est pas en train de faire mourir quelque chose qui aurait pu servir tout de suite? Là, je me trouve vers M. Keïta. Est-ce que ce n'est pas trop large pour être réaliste?
Oui, c'est pourquoi moi je parle de motivation. De motivation, c'est pour alourdir quelque part un peu. En tout cas, de toutes les façons, c'est quelque chose qui peut alourdir l'application, la mise en œuvre de l'accord. Je trouve que c'est trop large, surtout, et je le rappelle, que lors de la conférence nationale, c'était l'occasion pour tout le monde, à la commission crime de sang qui s'est interrogée aux périodes antérieures.
Absolument.
Qui a concerné les périodes antérieures, de faire. Mais les gens trouvent qu'à l'époque, qu'ils n'ont pas pu solder les comptes à l'époque. Bon, rien ne dit que même après la commission réconciliation, vérité et réconciliation, ils trouveront encore leurs comptes. Et rien ne dit que d'autres rébellions ne vont pas renaître et occasionner encore d'autres commissions. Parce que la brèche est toujours là. Moi, je pense qu'en réalité, il fallait. C'est une commission dont on pouvait normalement se passer, mais c'est
quand même, regarde ce qui
c'est quand même quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Oui, oui. Quelque chose de nécessaire aujourd'hui, puisque si vraiment ça peut venir en aide à des gens, il y a des gens qui sont vraiment des cibles, des victimes de nombreuses violations, comme on l'a dit, et même si quelque part. Moi, je trouve que les dépositions et les victimes identifiées sont quand même un peu en deçà du grand alarmisme qui est entretenu autour de la
ah bon,
question.
Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup moins?
Il y en a beaucoup moins, les dépositions. Je n'en vois pas vraiment telles qu'on en a parlé. Je me rappelle en 2018, quand on faisait les bilans, ils étaient au nombre de 11 000 dépositions aujourd'hui. Je ne sais pas à combien elles se trouvent. Aujourd'hui.
Je vois madame sourire lorsque vous dites ça.
Je souris parce que la commission de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous l'approuvons parce que, en tant que victimes, nous nous voyons déjà un peu dans nos droits, parce que c'est un mécanisme de la justice transitionnelle. Et dans la justice transitionnelle, on parle de 4 piliers. Le pilier de la vérité, justice, réparation et puis la non-récurrence. Donc la CVGR, en tant que mécanisme de justice transitionnelle, les victimes l'approuvent beaucoup. Et ça nous a permis, nous, victimes, d'être identifiées. Aujourd'hui, je sais que la semaine passée, on était à 19 852 victimes identifiées dans le Mali. Et je sais qu'il y a encore plus cette semaine, parce que moi, j'ai eu à diriger certains à aller encore faire leur déposition. Donc, ce qui fait que sans la commission Vérité, Justice et Réconciliation, les victimes n'allaient pas se voir au Mali. Mais aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, les victimes ont été identifiées.
On a mis les visages sur les victimes. Mais en même temps, c'est créé en 2014, nous sommes en 2021. Mmh. Quel bilan? Est-ce que vous, les victimes, vous voyez quelque chose frémir?
On voit beaucoup de choses frémir, parce que moi, je pense quand même que si la CVGR n'avait pas été créée, on va tout faire pour la créer, quoi. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du côté des gens du Nord qui ont réclamé ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et actuellement, comme elle vient de le dire, vous avez vu, le nombre a vraiment augmenté. Mais il y a
vous
beaucoup de gens
plus
encore.
Plus de 19 000 aujourd'hui, 19 000, c'est ça?
On est presque dans les 20 000 maintenant. C'est-à-dire que le problème est que il y a encore, on a besoin, c'est notre travail, on le fait, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser encore. Il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas encore venues. Il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup de victimes à qui il faut expliquer.
On va parler de ça après parce que ça reste assez intimiste. Hein, je veux dire, beaucoup de gens ne savent pas oui. que cette commission existe. On va en parler dans un instant. Voilà. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ces victimes, une fois qu'on les a vues, il se passe quoi?
Mais je vous dis que il y a ce que la CVG organise là, et ce que nous avons, ils ont appelé comment ça s'appelle encore
les audiences publiques.
Mm-hmm. Au cours de ces audiences publiques, les victimes viennent et s'expriment. Déjà, ça fait un soulagement. Vous voyez quelqu'un à qui on a tué l'oncle devant lui ou bien on a égorgé son enfant, etc. qui a l'occasion, devant un grand public qui représente vraiment beaucoup de push social, ben, à s'exprimer, à parler de sa douleur. Donc, il y a déjà une réparation qui est là, psychologique. Et ça, c'est la CVIR qui offre ça.
C'est régulier, ça, les audiences?
Oui, on prépare déjà la troisième audience publique. Bientôt, on ira en troisième audience publique où les gens vont se...
Non. Le président.
Alors, président Ousmane Oumarou Sidi Bey, lorsqu'on crée une commission comme celle-là, on a vu quelquefois que c'était des prétextes, c'est-à-dire on fait ça, on sert aux gens, et puis il ne se passe rien. Est-ce que vous avez le sentiment réellement d'être soutenu dans votre aventure? Parce qu'il faut des budgets, il faut des cadres, il faut des choses qui vous permettent d'aller à la rencontre de ces gens-là, de permettre à ces gens-là de venir vers vous.
Non, je dois dire très honnêtement que nous avons tout le soutien politique nécessaire. Pourquoi? Nous sommes quand même plus de 120 personnes avec les antennes et le siège de Bamako qui sont payées par le budget d'État. Nous avons nos activités, notre fonctionnement qui est quand même payé sur le budget d'État.
Mais c'est la moindre des choses. Il faut bien que ça soit quelque part.
Pas une volonté. Non, mais je ne défends personne. Mais je dis, j'insiste sur une chose. L'indépendance de la Commission. Depuis que nous avons été mis en place, pas une fois, ni un ministre, ni quelque autre autorité nous a interpellés, qu'est-ce que vous faites, pourquoi ça. Nous sommes libres de nos mouvements, que ce soit à Kidal. Nous avons eu une antenne à Kidal avant que les services gouvernementaux n'y aillent. C'est pour vous dire que la CVGR est acceptée par les populations, peut-être plus que les services gouvernementaux. Nous avons fait 500 dépositions au camp des réfugiés de Mera en Mauritanie quand les représentants du gouvernement n'étaient même pas acceptés là-bas. Et il faut vous dire qu'il y a beaucoup de choses par rapport... Vous avez mentionné ça en commençant. La CVGR est un espoir pour les victimes. Ce qui les empêche, même leur permet d'attendre et d'oublier l'esprit de vengeance. Donc, c'est vrai que...
Ça reste quand même quelque chose de pas très connu. Hein. Est-ce que j'exagère, M. Keïta, quand je dis ça?
Vous n'exagérez pas, parce qu'en réalité, il y a vraiment une grande difficulté, une grande peine à convaincre les populations de la raison d'être de cette institution. J'ai l'impression qu'en réalité, l'opinion publique n'y prête pas beaucoup d'attention.
Pourquoi c'est cette opinion publique qui a été blessée, qui a été frappée
d'intérêt. Non, c'est à cause, je pense, que de cette histoire de l'étendre à l'ensemble des périodes qui sont déjà... Si on disait, bon, effectivement, voilà, que c'est une commission qui existe aujourd'hui...
À partir de 90, par exemple.
Non, même de 2000. Des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, les gens auraient pu comprendre. Mais s'il s'agit de réveiller, d'exhumer des cadavres que le peuple pensait déjà enterrés, les gens n'y voyaient pas beaucoup d'intérêt. Donc il fallait vraiment recadrer et restreindre à cette période-là. Mais... force est de reconnaître et de ressasser qu'en réalité, la motivation sous-tendue par ceux qui
cette
ont voulu
est
cette
importante.
Commission, effectivement, c'est de mettre en exergue la responsabilité de l'État et non pas des gens et des individus, la responsabilité de l'État. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, je pense que l'insécurité aujourd'hui vous empêche vous-même. Et président,
de se rendre dans certaines régions.
De se rendre dans certaines pour identifier, recenser les victimes. Pendant ce temps, les victimes, la boîte de Pandore qu'on a ouverte est en train de s'étendre à d'autres zones où il y a beaucoup plus de victimes qu'antérieurement, le centre du Mali.
On va en parler dans la seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On parlera aussi du bilan. Il va bien falloir dresser un bilan. Et puis, il faut parler aussi du budget. Parce que pour faire ça, il faut travailler, voyager dans le pays. Et il faut aussi indemniser les victimes à un moment donné. Il faut la réparation dont vous parliez, Madame Fatoumata. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
Le débat africain. Alain Foucault.
Penser les plaies du passé, rendre justice aux victimes pour un nouveau départ. C'est la mission de la commission Justice, Vérité et Réconciliation mise en place au Mali en 2014. Mais quel bilan ? A-t-elle les moyens de répondre à toutes les attentes, à gérer tous les drames, toutes ces exactions arbitraires, disparitions forcées, arrestations et détentions, tortures et enlèvements, esclavage, recrutement d'enfants soldats, mutilations, violences sexuelles, déplacements forcés ou encore destruction de propriétés qui ont émaillé l'histoire du Mali depuis les indépendances en 1960. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à Bamako, à la justice et à la réconciliation nationale. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de ce processus. D'abord M. Ousmane Oumarou Sidibé, président du CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Notre second invité est Mme Fatoumata Touré, présidente du CNV, le Conseil National des Victimes. Troisième invité de ce plateau, M. Saloum Traoré, victime et membre du CNAV, la Coordination Nationale des Associations des Victimes. Notre quatrième invité est un confrère, Abderrahmane Keïta. Il est journaliste, directeur de publication. Voilà pour notre plateau. Alors, dans la première partie, on a évoqué l'importance de cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, puisqu'il y a eu beaucoup de drames ici, il y a eu beaucoup de tragédies. Mais en même temps, pour que cela marche, Madame Fatoumata Traoré le disait tout à l'heure, pour que cela marche, il faut qu'il y ait aussi réparation. C'est un des piliers dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce qu'on vous donne les moyens de fonctionner véritablement, Président? Parce qu'on a le sentiment, comme dans d'autres pays, hein, on a souvent dit ça en Côte d'Ivoire à un moment donné, et dans d'autres territoires, est-ce que vous avez le sentiment que c'est au cœur des choses? Vous n'éprouvez pas ce sentiment diffus que les autorités ont accepté ça? Bon, ils disent on va le faire, mais... il faudrait des moyens pour le faire et on n'en a pas.
Bon, moi je crois que, en fait, je dois dire, la commission n'a pas d'autonomie financière, nous n'avons pas un budget propre, mais l'État prend en charge les salaires, les bureaux, les véhicules, tout le fonctionnement. Maintenant, et certaines activités. Mais nous avons beaucoup d'autres partenaires qui prennent en charge nos activités, les audiences publiques, la préparation des différentes politiques, telles que la politique de réparation, je vais en parler maintenant, les voyages d'études et tout ça. Bon, je ne peux pas dire qu'on est dans une situation idéale. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes collègues commissaires, bon, même l'Allemagne, même les États-Unis ont des contraintes budgétaires. Donc, on travaille quand même dans un pays en crise. Et par rapport à ça, moi, je trouve que nous travaillons convenablement. Nous envoyons nos antennes fonctionnent. Quand nous avons des équipes mobiles, on arrive toujours à avoir un partenaire pour les financer.
Mais en même temps, quand on regarde comment ça s'est passé dans d'autres pays, quand on parle du Rwanda, on parle de l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays, ces audiences concernaient l'ensemble des populations. On a le sentiment que c'est un peu plus intimiste ici, non, Madame Touré?
Non, parce que les audiences publiques, c'est vrai, c'est pour les victimes. Mmh. Les victimes participent et un bon nombre de personnalités aussi participent.
Mais une fois que la victime a parlé de sa douleur, comme Monsieur Traoré le mentionnait tout à l'heure, une fois que la victime, oui, a un peu exorcisé et a parlé du mal dont il a souffert, il se passe quoi après?
Pour la victime, c'est un début de guérison. Mm-hmm. Au fait, c'est les audiences publiques, c'est un début de guérison pour les victimes, parce que ça les permet de dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, et devant toute une foule, ils s'expriment et dire ce qu'ils pensent.
Mais les autres piliers, alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Monsieur le Président.
Oui, en fait, Monsieur Foucault, lorsqu'on a été créé, avant d'écrire quoi que ce soit, nous avons fait le tour du pays. Nous avons rencontré les victimes, les associations de victimes, les organisations de défense des droits de l'homme. Leur avons dit, nous sommes Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pour vous, c'est quoi la justice? À partir de quel moment vous pouvez, votre cœur peut être ouvert pour la réconciliation? Je peux diviser en trois groupes les réponses qu'on a eues. Certaines victimes nous ont dit, toutes les victimes quand même sont d'accord sur une chose, pour qu'elles estiment que justice a été faite, il faut que la vérité soit dite sur ce qui leur est arrivé. Donc il faut qu'elles fassent des enquêtes pour établir la vérité sur ce qui leur est arrivé. Ça c'est la première chose, c'est partagé par toutes les victimes. Deuxièmement, un certain nombre de victimes ont dit, nous voulons plus que ça. Qu'on reconnaisse ce qui nous est arrivé, ça nous soulage, que la nation entière reconnaisse ce qui nous est arrivé, et les audiences publiques participent de cela. Devant le gouvernement, devant tout le monde à la télévision, on dit ce que l'armée a fait, ce que les groupes armés ont fait, Et je profite pour dire que c'est pas seulement, même si peut-être pour les groupes armés, comme dit Keïta, pour eux, c'est peut-être l'État, mais pour nous, c'est pas seulement l'État. Tous les acteurs sur le terrain, c'est les forces armées de sécurité, mais c'est les groupes armés aussi.
En le disant, je suis tout parti de motivation.
Non, je suis d'accord avec toi. Non, je comprends bien. Je comprends, mais la réalité est autre. Deuxièmement, il nous faut une réparation. Et vraiment, pour beaucoup, c'est une réparation matérielle, financière. Quelques-uns on s'en contenterait d'une réparation symbolique. Et ça, je peux revenir sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur cette réparation. Et quelques-uns, on était étonnés, ce n'est pas les plus nombreux, mais quand même, quelques-uns ont dit, nous voulons plus que tout ça, nous voulons que les auteurs soient recherchés et jugés. Et c'est là que...
Logique.
Et c'est là que ça se relève la justice pénale. La CVGR, c'est une justice réparatrice. Faire des enquêtes pour dire la vérité sur ce qui est passé, oui, nous le faisons. Nous avons fait beaucoup d'enquêtes. Nous avons des rapports d'enquête sur des cas emblématiques qui sont représentatifs de la conflictualité de 1960 à aujourd'hui. Réparation, nous avons préparé une politique de réparation très participative. Les victimes pourraient en parler. On est allé dans toutes les régions. On les a interrogés. On a fait des rencontres, des ateliers. Aujourd'hui, nous avons une politique de réparation avec un projet de loi sur les réparations, avec un projet de décret sur la mise en œuvre de cette loi, et qui ont été validés par un atelier national où il y avait les groupes armés, tous les départements ministériels. Et cette politique de réparation aujourd'hui est sur la table du gouvernement, et après l'adoption de la politique de réparation, on va introduire le projet de loi. Et donc nous pensons que pendant la transition, la loi sur les réparations et les décrets sur la réparation seront adoptés. Donc ça, c'est un grand pas de ce que... C'est après ça que le gouvernement va mettre en place un fonds de réparation. Et ce n'est pas la CVGR qui répare. Le gouvernement va mettre en place une structure de réparation. Et donc ça, c'est dans tous les pays, le processus est assez lent. C'est vrai que les victimes sont impatientes, je les comprends.
Oui, et c'est très long, parce
que
je regarde la victime qui se dit, si tout ce processus, il faut le suivre, ça va être particulièrement long. Et on a le sentiment que souvent, on finit par l'enterrer. C'est un peu le sentiment qui vous habite, non?
Oui, effectivement, il y a beaucoup...
Surtout aussi que les victimes sont en train de naître au fur et à mesure que nous avançons. Parce qu'il y a beaucoup plus de victimes qu'hier.
Ils osent un peu plus parler.
Ah, mais il faut que les gens puissent les atteindre d'abord. Puisque là-bas, il me semble que il me semble que l'atmosphère et puis
dans le nord,
au centre
du pays,
beaucoup plus
c'est vrai que
alarmant qu'au nord du Mali. Mais moi, je voulais revenir un peu sur la réparation. Moi, j'ai l'impression que la réparation aussi est de nature à créer des victimes, en ce sens que elle est alléchante. La réparation consiste à indemniser matériellement des gens, à procéder à des insertions socio-professionnelles, en plus des accompagnements psychosociaux que vous avez. Je pense qu'en réalité, dans notre pays, dans nos réalités telles que vous le connaissez, et c'est de nature quand même à fabriquer des victimes. Puisque je m'interroge sur les moyens dont vous aviez pour distinguer les vraies victimes de ceux-là. Qui joue un peu à la théâtralisation
Bonne question, je suis tout à fait d'accord, M. Foucault, je suis d'accord avec Keïta, ce qu'il est tout à fait. Mais ça, personnellement, en tant que président, c'est mon obsession. Mais ça, a priori, il faut faire confiance aux victimes. Mais le projet de loi fixe des critères d'indemnisation. Et aussi, il y a des sanctions qui sont prévues pour les tentatives. Pour les fausses victimes. Ça, tous les pays ont été confrontés à ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé dans d'autres pays, ils sont confrontés à ça. Mais je crois que c'est des choses auxquelles nous sommes préparés à ça. On a une cartographie des violations des droits de l'homme depuis 1960 à aujourd'hui. Nous avons une cartographie, nous avons une base de données. Et donc quand une victime vient, il y a un dossier à remplir et nous allons croiser ça aussi avec nos informations, notre base de données, la cartographie des violations qui dit 25 janvier, tel mois, telle année, dans tel secteur. Il y a eu un groupe armé qui a arrêté tel. Donc tout ça est vraiment où les militaires ont fait... On a beaucoup d'éléments par rapport à ça. Et quand on fait des croisements, ça peut minimiser. Mais vous avez raison, c'est un risque. Mais bon, c'est
et puis dans le même temps, s'il doit y avoir indemnisation, si les gens ont été spoliés, si les gens ont été victimes, il va bien falloir réparer à un moment donné. Est-ce que le fait d'avoir peur qu'il y ait des fausses victimes fait qu'il faille abandonner?
Bon, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que les fausses victimes... qu'on devrait donner l'occasion aux fausses victimes de pénaliser les vraies victimes. Ça, c'est une autre injustice qu'on aura créée. Absolument. Alors que nous sommes en train de, ils sont en train, avec nous certainement aussi, de combattre l'injustice et de procéder à la réconciliation.
Monsieur Traoré,
ce que je voulais dire, c'est que justement, pour ces fausses victimes-là, je pense que déjà avec l'existence des associations et des victimes, nous aussi, pour notre crédibilité, eh bien, nous faisons en sorte que c'est les gens qui viennent nous voir pour dire qu'ils sont des victimes. Bon, avant même que la CVGR ne commence leur enquête, nous-mêmes, les victimes, en tout cas, ce qui se présente à nous, nous essayons de faire d'abord la part des choses. Est-ce que c'est vraiment des victimes, selon notre entendement? Si nous trouvons que vraiment c'est des victimes, il n'y a pas de problème. Nous les encourageons à aller faire leur déposition. Sinon, nous les décourageons déjà pour dire non. Ça, c'est ce que tu es en train de dire. Nous, on n'est pas d'accord parce que c'est pas la peine d'aller alourdir la liste comme ça avec des choses, parce que dans tous les cas, il y aura des vraies enquêtes qui vont démontrer que tu n'es pas victime et tu auras honte ce jour-là.
Il y a un autre pilier qui est celui de la justice. Parce qu'une chose est de réparer, d'indemniser, on espère y arriver un jour, mais la justice, on n'en parle pas. Depuis le début de cette histoire, on n'a pas entendu qui que ce soit condamné dans ce cadre-là.
Si. Au moment même où la CVGR était créée, il y avait déjà 400 plaintes qui étaient déposées au niveau de la justice malienne. Donc, en fait, la CVGR n'est pas un passage obligé pour les victimes pour saisir la justice pénale. Une victime peut faire une déposition chez nous. Nous, on fait des enquêtes sur le pouvoir si elle est victime. On engage les procédures de réparation. Mais l'aspect pénal, ça, aujourd'hui, il y a un pôle judiciaire spécialisé antiterroriste auquel on a donné le mandat de juger les auteurs des violations graves des droits de l'homme. Donc, et ça, c'est en cours avec des difficultés, ça c'est sûr. Il y en a qui ont été jugés, hein, quelques-uns ont été jugés, mais avec des difficultés.
Pourquoi? Non, parce que quand on écoute ça, oui. Ce dont parlait tout à l'heure M. Traoré, c'est des gens qui, ça s'est passé en 2012,
oui.
2012, ceux-là n'ont pas spécialement été, on va dire, condamnés alors que c'est tout récent. Alors, quid de ceux qui, où ça s'est passé en 63?
Non, 63... Les acteurs, pour la plupart, ne sont même plus en vie, malheureusement, et c'est frappé même de prescription. Mais par contre, l'aspect enquête, pour dire la vérité sur ce qui s'est passé, pour offrir des réparations, ça ne disparaît pas, et c'est ça notre rôle, nous, la CVGR. Et c'est très, très important.
Mais vous avez envie que ça aille un peu plus vite.
Je voulais augmenter sur ce que le président vient de dire. Par exemple, lors de la deuxième audience publique, il y a eu un témoignage de 1963. L'histoire s'est passée en 1963. Beaucoup de personnes sont mortes, mais quand même, elle a pu venir s'exprimer devant tout le monde. Et les gens ont su que son histoire s'est passée. Voilà.
Parce que la question de la justice, j'ai écouté pas mal de gens qui se disent comment ils vont rendre la justice là-dessus et que pour l'instant, la justice ne s'est pas saisie de beaucoup de dossiers dans ce domaine-là. Sinon, beaucoup de personnes qui sont dans des zones où l'État ne peut pas accéder seraient déjà interpellées, Keta.
Bon, moi je pense que la justice, quand on parle de CVGR, la justice s'entend, c'est-à-dire les réparations que la justice apporte aux victimes et non pas cette justice, il s'agit de la justice transitoire, de cette justice transitoire. Il ne s'agit pas de la justice traditionnelle. Mais on peut quand même s'interroger sur les croisements possibles entre ces deux justices-là, puisque il vient de le dire, j'ai l'impression que l'une n'exclut pas l'autre. Or, l'autre aussi peut se solder par des réparations. Vous aussi, vous prévoyez des réparations. Comment est-ce que on peut faire la jonction, la double réparation
non,
pour des victimes
pas de double de
non, c'est vrai, c'est-à-dire il y a un principe fondamental qui est on ne permet pas la double réparation. Si une victime vient chez nous et qu'elle accepte ce que nous appelons une réparation administrative, elle renonce à attaquer l'État pour une réparation judiciaire. Donc ça c'est vraiment...
Je regarde Mme Touré qui...
C'est ça, il a parlé de double réparation, c'est sur ça que je voulais dire qu'il n'y aura pas de double réparation dans la politique de réparation. La double réparation ne va pas se faire parce que quand tu demandes à aller en justice, tu ne peux pas être réparé. Quand tu demandes réparation aussi, tu ne vas pas
ouais.
en
Mais pour justice. Ce qui est de ce que vous avez parlé, la justice traditionnelle dont vous avez parlé, et spécifiquement...
Transitionnelle.
Non, de la justice traditionnelle.
Traditionnelle,
ok. De ça, vous avez parlé, et de la question qu'il a évoquée, il y a vraiment lieu de s'interroger sur la volonté de l'État de connaître de cette affaire. C'est vraiment une affaire qui a longtemps traîné. Et longtemps traîné parce qu'il y a eu des empiétements dus à des procédures judiciaires. Il vient de vous dire, par exemple, que les corps ont été identifiés dans une fosse
commune.
Ce n'est pas tellement clair parce que jusqu'à présent, les équivoques pèsent encore sur les autopsies qu'on a eu à faire sur ces corps-là. Et c'est ce qui a retardé la procédure judiciaire, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, bon, ils ont empiété sur le temps de détention des présumés auteurs, des présumés coupables de cette affaire-là. Et ils étaient obligés, puisque je pense qu'il y avait un malaise à les juger en son temps, de les élargir temporairement en attendant de réengager. Mais personne ne croit encore vraiment à une reprise de cette procédure judiciaire.
Bon, vous le désespérez, là.
Voilà, il y a eu déjà deux tentatives de tribunal, effectivement. Nous avons fait le déplacement, nous avons été jusqu'à Sikasso, où la cour était en déplacement. On a été deux fois. Et chaque fois, vous savez, l'histoire des avocats, il y a toujours des choses, on reporte à plus tard. Mais finalement, je pense que récemment, on est en train de parler encore d'une reprise de cette justice-là. Mais ce qui est sûr, c'est que nos membres ont surtout demandé, il faudrait vraiment qu'il y ait des réparations. Bon, les réparations sans justice, ce n'est pas facile. Mais de toutes les façons, il y aura justice. Je pense qu'il y a eu beaucoup de négociations et il y a eu quand même des tentatives.
Ils ont renoncé à la sanction.
Oui, bon, je pense que notre association est en train de voir comment on va essayer de mettre fin à tout ça en nous contentant de nous entendre avec...
Passer par la chaise vigère, alors.
Voilà.
La chaise vigère ne veut pas se dossier. Non, non, le laisse avec leur histoire.
Le dossier est trop lourd pour la chaise vigère. Parce que c'est un dossier qui fait qu'il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de choses.
Beaucoup de violences.
Extrêmement graves.
Qui sont sommaires.
Et extrêmement graves. Mais ce que je voulais seulement vous dire, c'est que nous avons la certitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute pour nous par rapport au corps que nous avons trouvé là-bas. Il y a eu 21 personnes qui avaient disparu et on a trouvé les 21 personnes dans la...
totalement identifiées. Okay. Il est évident, et c'est vraiment ma dernière question, mais je m'adresse à la dame, à Madame Fatoumata. Est-ce que vous pensez que ce processus puisse apporter vraiment la paix dans ce pays qui est perturbé et qui est divisé depuis quelque temps? Hésitation traduit bien que vous n'y croyez pas beaucoup.
Peut-être que pour les victimes, s'ils arrivent à avoir réparation, peut-être, et que l'État leur demande de pardonner les bourreaux, peut-être que ça pourrait les alléger la tâche d'aller vers la réconciliation.
Mais pour l'instant, vous voyez ça très très loin.
Bon, les victimes ne se voient pas. Pour le moment, on attend toujours la réparation. Il y en a qui sont même impatientes, pensant qu'ils ne vont même pas avoir de réparation. Donc, quand la victime pense qu'il ne va pas avoir de réparation, est-ce qu'il va penser à la réconciliation? C'est voilà. Ça le problème.
C'est là tout le problème. Et vous avez besoin d'aller un peu plus vite. Vous avez besoin qu'on vous aide.
Tout à fait. Vraiment. On est vraiment conscient de ça. En fait, nous sommes la seule commission. Avant de déposer même notre rapport, nous avons extrait une politique de réparation qu'on a déposé sur la table du gouvernement qui va être adopté pour aller vite.
On espère que le gouvernement va aller vite. Et nous arrivons malheureusement au terme de cette émission.
Sans que je dise vraiment...
En un mot, parce qu'on est vraiment...
Je n'ai aucun espoir, très sérieusement, puisque... Oui, je n'ai aucun espoir que ça aboutisse à une réconciliation nationale, puisque pendant qu'on est en train de gérer des problèmes antérieurs, d'autres problèmes sont en train de naître. Et je pense que si la CVGR gère le problème d'aujourd'hui, elle aura encore à affronter d'autres problèmes qui est en train de s'amplifier amplifier encore son domaine d'intervention.
J'espère qu'on finira par trouver une solution. Merci en tout cas d'être venu en discuter.
Je voulais dire seulement que dès que la réparation commencera, je pense que les espoirs vont venir.
On l'espère aussi. Merci à vous en tout cas. Merci et bon courage à vous. Le débat africain est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine avec Delphine Michaud à Paris pour un autre débat africain. Restez à l'écoute. Et à très vite.